Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur Art Appliqué, le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interviewe des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework art et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler principalement de growth hacking pour les non-codeurs, des outils que l'on peut utiliser pour scraper des données, pour automatiser des actions, de tout ce qui peut vous aider à faire grossir n'importe quel type d'activité sans avoir à faire une ligne de code.
Si tu es un freelance qui cherche des leads et qui va sur LinkedIn, ou un professeur de yoga qui veut lancer son yoga studio dans le 11e arrondissement et dont les leads se trouvent non pas sur LinkedIn mais sur Instagram, ou ouais. Un founder de startup SaaS qui veut lancer son produit sur Product Hunt et dont la cible se trouve sur Product Hunt et sur Twitter, tu peux trouver une stratégie et l'automatiser, scraper des informations.
Jules Marigiano est le VP marketing de Phantom Buster. Phantom Buster, c'est l'outil du growth hacker, comme dit le slogan. Il nous explique dans cet épisode comment on peut utiliser Phantom Buster et comment, en l'utilisant comme une brique, on peut le plugger à d'autres outils et arriver à mettre des stratégies growth marketing en autopilote. On parle aussi des coulisses de Phantom Buster, de bonnes pratiques qu'il a observées, et surtout restez jusqu'à la fin car il nous décrit en détail la stratégie growth de son coiffeur qui optimise à merveille chacune des étapes du framework art. Un cas d'école qui mériterait d'être étudié en business school. Alors oubliez l'exemple Michel Augustin, le coiffeur de Jules Marigiano, c'est largement au-dessus. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter sur le site yannleonardi.com pour être averti des nouveaux épisodes et recevoir des conseils marketing et ressources en exclusivité. Le growth hacking sans une ligne de code, on en parle tout de suite, c'est parti. Je suis reçu aujourd'hui à Station F par Jules Marigiano de Phantom Buster. Salut Jules.
Salut, ça va Yann ?
Mais ça va bien. Tu es le VP marketing de Phantom Buster. Ouais. En gros, quand il est question de marketing et de growth, c'est toi.
C'est moi, la grosse. On a quelqu'un qui arrive et qui va prendre son poste, mais on en parlera plus tard. Mais ouais.
Ok. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas Phantom Buster, d'après la pub sur Google Ads que j'ai vu passer, il s'agit de l'outil du Growth Hacker, un outil d'automatisation et d'extraction des données présentes en ligne. Normalement, tous ceux qui s'intéressent au Growth Hacking ont déjà entendu parler de Phantom Buster et l'ont déjà utilisé. Mais on peut tout à fait utiliser Phantom Buster même si on n'est pas un Growth Hacker. Cela peut servir à tous ceux qui veulent promouvoir une activité commerciale quelconque, jusqu'aux freelance, aux créatifs. C'est d'ailleurs l'objet de ce podcast, aider à promouvoir vos activités respectives en s'inspirant des meilleures techniques growth et surtout en prenant comme base le framework AR, framework dont on va parler évidemment pendant ce podcast. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand as-tu entendu parler du framework AR la toute première fois ?
Alors, j'ai entendu parler du framework AR la toute première fois grâce à The Family. Je connaissais pas le monde des startups, le monde du SaaS, le code il y a 4-5 ans. C'était un mail qui avait été envoyé pour la première ou pour la deuxième édition de Lyon, la formation des employés de startups de The Family. Et alors que je travaillais dans les travaux publics, donc absolument aucun rapport.
Comment ça se fait que tu étais inscrit à cette newsletter du coup ?
Je sais pas, c'est ma copine qui avait dû me le passer ou. Elle avait dû sentir qu'il y avait appétence.
D'accord.
Envers ça, et donc je me suis inscrit. Et donc voilà, au cours de la formation, ça a parlé growth hacking, le terme que je n'avais jamais entendu, et probablement que c'est à ce moment-là que le framework est arrivé.
Ok, très bien.
Le marketing, j'en avais déjà entendu parler pas mal parce que j'ai fait une école de marketing, spécialité marketing international, donc j'avais un peu dégrossi le sujet. J'étais aussi tombé sur de la littérature type la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui m'avait donner une intuition qu'il existe un marketing moins corporate avec des budgets à allouer à l'affichage.
Ouais. Mais d'ailleurs, dans ton école d'une école de commerce, du coup, tu trouves pas ça étonnant que ce soit pas enseigné ?
Si, clairement, je trouve que c'est vraiment. Je pense que c'est la prochaine spécialité que vont proposer les écoles de commerce à leurs élèves. Ouais. Je sais que Germinal intervient de plus en plus chez HEC et que HEC est à mon avis vraiment sur la bonne voie en proposant le growth hacking parce que c'est clairement l'un des piliers du marketing de demain.
Alors Germinal qui est une agence growth donc et d'ailleurs j'avais reçu Grégoire Gambato, le CEO dans le podcast, je fais ma petite promo au passage.
Ouais, pardon.
ok, ça marche.
Alors Phantom Buster, parlons-en justement. Je l'ai présenté un peu succinctement. Est-ce que tu peux nous faire un pitch un peu plus complet, comme tu as l'habitude de faire ?
Phantom Buster, c'est la boîte à outils du gros hacker qui réunit les outils et le savoir pour générer de la croissance à une entreprise. On veut permettre à n'importe qui, par n'importe qui on sous-entend quelqu'un qui n'a pas forcément la formation et qui n'a pas forcément les connaissances techniques, de générer de la croissance dans son entreprise, quoi que veuille dire croissance dans le contexte de son entreprise. Ça peut être des audiences, ça peut être des prospects, ça peut être du contenu.
Toutes sortes de modes de croissance, quoi.
Exactement. Et on précise en prenant contrôle de leur web, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec Internet, mais les gens n'effleurent que la surface d'Internet. Voilà un petit peu la vision.
Alors du coup, il y a deux axes qui sont extraction de données et automatisation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec Phantom Buster en termes d'extraction de données ?
Ok, disons que ce matin, ton boss se pointe et te dit nous, notre cible, c'est les comptables dans les entreprises de moins de 75 personnes en Ile-de-France. Et on te dit prospecte ces gens. Phantom Buster te permet de faire des actions que tu pourrais faire toi depuis ton navigateur et de les automatiser. Et donc, ce que tu aurais pu faire, c'est de te dire ok, où est cette cible que je recherche ? Elle est sur LinkedIn. Où est-ce qu'elle est sur LinkedIn ? Elle est dans les résultats d'une recherche.
Ouais.
Donc, je vais faire la recherche la meilleure pour mon besoin. Je vais faire cette recherche et ensuite je vais me retrouver avec 50 pages de résultats, de noms, de prénoms et d'entreprises de gens. Donc avec Phantom Buster, on va te permettre d'extraire la liste de tous les gens qui ont le titre de comptable dans les entreprises qui ont leur QG ou, des locaux en Ile-de-France et qui ont un nombre d'employés inférieur à temps.
D'accord, donc c'est ce qu'on appelle le scrapping.
Exactement.
Donc du coup, l'exemple que tu donnais là, pour les comptables d'Île-de-France, ça peut être valable pour un peu n'importe qui cherche des leads en fait. Même un freelance qui cherche des nouveaux clients, quoi.
Exactement, si tu es un freelance qui cherche des leads et qui va sur LinkedIn, ou un professeur de yoga qui veut lancer son yoga studio dans le 11e arrondissement et dont les leads se trouvent non pas sur LinkedIn mais sur Instagram, ou un founder de start-up SaaS qui veut lancer son produit sur Product Hunt et dont la cible se trouve sur Product Hunt et sur Twitter, tu peux automatiser, tu peux trouver une stratégie et l'automatiser, scraper des informations.
Et ben justement, je voulais parler d'automatisation parce que du coup, c'est Phantom Buster, c'est extraction de données, donc là, comme tu viens d'expliquer, et automatisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'automatisation avec Phantom Buster alors ?
Avec Phantom Buster, on peut automatiser toutes les actions que toi, tu pourrais faire depuis ton ordinateur sur Internet. Tu peux faire des actions, tu peux faire des clics, tu peux appuyer sur des touches, tu peux scroller, tu peux swiper. Tout ça, Phantom Buster, on a des briques qui te permettent de faire certaines de ces actions.
Ouais. J'ai vu, il y a un catalogue avec des titres, des applications dans le catalogue.
Exactement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des briques qui font ces actions à ta place et on te permet de les assembler les unes après les autres de manière à exécuter une stratégie automatisée. Donc, des exemples de ces actions, ça peut être liker un post, se connecter avec quelqu'un sur LinkedIn.
Donc, en dehors de ces catalogues, est-ce qu'on peut faire des trucs customisés ?
Tu peux. Tu peux coder tes propres scripts en JavaScript.
Ah, donc là, il faut un développeur pour...
Donc là, il faut un développeur ou il faut être un peu bon techniquement.
Ok, d'accord, ça marche. Niveau légalité, on est comment alors ? Parce qu'on parle de scraper des données, des choses qui ne sont pas dans les conditions générales d'utilisation de la plupart des plateformes ?
Clairement pas.
Alors raconte-moi.
Quand tu t'inscris sur LinkedIn, tu donnes de la donnée, tu mets de la donnée sur LinkedIn. Mais cette donnée n'est pas pour autant la propriété de LinkedIn. Elle est ta propriété. Ce n'est pas moi qui l'invente ou qui l'espère. C'est le résultat d'un procès qui a eu en septembre 2019. De HiQ Labs contre LinkedIn, où en gros LinkedIn se plaignait que HiQ scrapait de la donnée pour proposer un outil d'offre d'emploi ou je ne sais plus exactement quoi. Et LinkedIn disait c'est ma donnée. Et HiQ disait non, c'est de la donnée publique, les gens l'ont mis là, donc moi j'ai le droit de la récupérer. Et donc en fait, les grosses plateformes, LinkedIn, Insta et tout, disent c'est notre donnée, on ne veut pas que les gens la scrapent. Et donc ils mettent ça dans leur. Term of service, mais cette donnée est purement publique. Donc en fait, on est dans une zone où on est hors des termes of service, mais totalement dans la légalité.
D'accord. Donc en gros, tu ne seras pas inquiété légalement. Par contre, ton compte utilisateur peut avoir des problèmes et se faire virer de la plateforme.
tu ne seras pas inquiété légalement, tu vas contre les termes of service, donc il y a des risques qui peuvent être très fortement modérés si tu respectes certains seuils qu'on appelle des rate limits d'automatisation.
D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des différentes limites à respecter sur les réseaux principaux pour ne pas avoir son compte inquiété
Par exemple, sur LinkedIn, et là je ressors les chiffres qu'on donne beaucoup sur Phantom Buster et qui protègent beaucoup de nos utilisateurs, on recommande de rester sous le seuil de 80 utilisateurs par jour. C'est-à-dire de visites ou d'invitations, de demandes de connexion ou d'envoi de DM. En gros, à chaque fois que tu vas aller visiter la page de quelqu'un avec qui tu n'es pas connecté, grosso modo, ça va compter pour plus 1.
Ah ouais? Une visite, ça vaut autant qu'un DM ou...
Franchement, leur algorithme est hyper opaque. Ils ne vont bien sûr pas nous dire quels sont les facteurs. Donc, la seule chose dont on est sûr, c'est que quand les gens sont restés sous des seuils type 80 visites de profil par jour, il n'y a jamais eu de soucis.
Okay.
Après, il y a plein de notions qui rentrent en jeu de compte chaud, c'est-à-dire quelqu'un qui se sert de LinkedIn 3 heures par jour. LinkedIn donnera peut-être une meilleure note à ce compte et donc lui permettra de faire plus d'actions qu'un compte froid.
Et puis il y a les comptes récents aussi.
Exactement, il y a les comptes récents, il y a les comptes qui sont connectés de manière à plein de gens mais qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Alors qu'il y a les comptes...
Il n'y a pas de cohérence.
Exactement. Alors qu'un compte où tu es bien pote avec 50 personnes de ton école, puis avec bien 30 personnes de ta boîte, okay, puis dans une certaine industrie, LinkedIn préfère ça.
Et Twitter alors?
Alors pour Twitter, on recommande généralement de follow une cinquantaine de comptes par jour, ce qui, même si ça ne semble pas beaucoup, sur le long terme, est largement suffisant pour se faire un following.
Ok. Donc, de toute façon, toutes ces bonnes pratiques, elles sont assez bien documentées et expliquées dans le site, hein, parce que moi, je le vois un peu partout, les limites. Comment ça se fait qu'avec Phantom Buster, on ne se fasse pas griller? Je vais reprendre l'exemple de LinkedIn, parce que, par exemple, il y a l'extension très connue LinkedHelper.
LinkedHelper, oui.
Qui, elle est grillée maintenant. C'est quoi la différence techniquement?
LinkedHelper, en fait, c'est une extension que tu as sur ton propre ordinateur et qui va faire des actions depuis ton navigateur. Ça a des avantages, c'est que tu fais toutes tes actions depuis la même IP, donc c'est très propre aux yeux de LinkedIn. La manière dont LinkedIn détecte ça, c'est qu'ils vont voir, OK, dans ton browser, tu as telle extension. Nous, on n'aime pas les gens qui ont telle extension, donc on va te suspendre ton compte. Avec Phantom Buster, tu as donné tes ordres dans Phantom Buster. Maintenant, un ordinateur s'allume dans le cloud, va sur LinkedIn, mais n'a absolument aucune extension. Le browser est vierge de toute extension et donc va faire les actions à ta place.
Ok. Du coup, vous ne passez pas par l'API LinkedIn alors?
Ah non, bien, en fait, Phantom Buster va faire que des choses que les API officielles ne permettent pas. C'était la vision initiale par les fondateurs de Phantom Buster de dire le web, il y a 0,008% du web, c'était le chiffre qui était avancé, qui est accessible par les API. C'est-à-dire que si tu veux automatiser des choses, tu es limité à une très petite portion du web. Phantom Buster permet de créer des API sur ces 99% restants. Et donc, si l'API officielle de LinkedIn ne permet pas de faire du like ou d'envoyer des messages, alors l'API Phantom Buster va te permettre de le faire.
Ok, d'accord. En ce qui concerne l'utilisation que font vos clients de Phantom Buster, quels sont les usages les plus fréquents?
Ces derniers temps, clairement, la prospection, la génération de leads sur LinkedIn, c'est le cas d'utilisation principal. L'information que je cherche est sur tel site. Je pourrais l'extraire à la main, mais c'est casse-pied. Donc, je le fais de manière automatique.
Ok. Quelle est l'utilisation la plus étonnante de Phantom Buster que tu aies vue?
Une utilisation étonnante que j'ai vue de Phantom Buster, c'était quelqu'un qui avait fait son script personnalisé. Donc lui, il avait codé son script pour automatiser Tinder.
Ouais.
Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait une carte de où sont ses différents matchs sur Tinder. Donc en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il va sur Tinder, il voit que telle personne est à 3 km de lui, depuis l'endroit où il est géolocalisé là. Ensuite, il allait dire, OK, je vais me géolocaliser à 10 km de là. Ah, OK, la personne est à tant de kilomètres maintenant. Ah, maintenant, je vais me géolocaliser à tel troisième endroit. Et il triangulait où étaient ses matchs et il faisait une carte avec tous les matchs. Ce qui était hyper creepy, ce qui était aussi un défi. Ça a été fait pour rigoler, si les gens qui écoutent ça s'inquiètent. Okay. C'est quelque chose qu'il aurait pu faire à la main. Tu vois, il aurait pu aller à un coin de Paris ou un coin de je ne sais pas quelle ville et noter toutes ces informations à la main. Il a dit que c'était plus rapide de le faire de manière automatique.
Ok. Qu'est-ce qui marche plus désormais, mais qui marchait avant avec Phantom Buster?
C'est une bonne question, surtout quand on a vu en 2019 la magnifique technique du follow-unfollow sur Instagram un peu mourir. Le follow-unfollow, donc suivre des gens dans l'espoir qu'ils vont te follow back, suivre en retour, excuse-moi. C'est une des techniques principales pour tous les nouveaux réseaux sociaux pour gagner des nouveaux followers. Ça a marché sur Instagram incroyablement bien ces dernières années. Nombre de boîtes ont obtenu leurs premiers milliers, dizaines de milliers de followers de cette manière. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que je pense que pas mal de la technologie qu'a Facebook pour éviter ce genre de pratique a été transférée à Instagram, puis même que Instagram a vu que ça devenait un peu abusé. Et donc voilà, ça ne marche plus. L'autofollow sur Instagram marche vraiment pas bien.
D'accord. Mais vous avez encore dans votre catalogue...
On le propose toujours parce que...
Parce que si j'utilise votre app, je reste sous le seuil de la guideline du coup.
Nous, on est un outil. Toi, tu décides comment tu utilises l'outil. Si tu te dis, je veux autofollow 1000 personnes dans la journée, on va dire, ok, il n'y a pas de problème, on va le faire pour toi. Et au bout de la troisième utilisation, ça...
Donc c'est quoi le seuil Instagram du coup?
Passer 2-3 ajouts en un lancement. Ce que j'appelle un lancement, c'est en gros faire 2-3 actions de suite.
Ouais.
Instagram peut... cramé que tu rentres dans une phase d'auto-follow abusif et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va déconnecter ton compte, donc tu vas devoir remettre ton mot de passe et te reconnecter. C'est petit, mais en fait ça casse complètement une séquence d'automatisation si tu dois remettre ton mot de passe toutes les 5 minutes.
Ok. Alors on va donc commencer à parcourir le framework A avec l'acquisition.
Okay.
Et je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Phantom Buster est donc, comme on en a parlé, très utilisé pour des boîtes qui ont besoin de créer des leads pour faire de l'outbound, donc
ouais.
De refourguer à des sales, par exemple. Tu as récemment fait un webinaire avec Guillaume Houbèche de Lemlist, une solution de cold emailing,
ouais.
Qui est passé dans le podcast d'ailleurs, c'est l'épisode 4 de la saison 1, si ça vous dit. Ce webinaire avait pour sujet comment mettre sa stratégie outbound marketing en autopilote, tout un programme.
Ouais.
Peux-tu nous expliquer rapidement les étapes de cette stratégie?
Bien sûr. Les étapes de cette stratégie qu'on avait avec Lemlist, qu'on a avec Lemlist, c'est d'utiliser Phantom Buster pour extraire la donnée, générer une liste de prospects, grosso modo, et d'utiliser Lemlist pour envoyer une séquence d'emails ultra personnalisée.
Donc c'est eux qui s'occupent de la outbound du coup?
C'est eux qui s'occupent de la outbound. Nous, on s'occupe de leur donner les informations, et en fait, ce qu'on veut, c'est que la personne, au début, ait à fournir le minimum d'informations et juste à appuyer sur clic et que tout soit fait à sa place. Donc un minimum d'informations vitales à donner, c'est ta cible. Qui est ta cible? Ah ben moi, ma cible, c'est les comptables d'entreprises de moins de 70 personnes en Île-de-France. Ok. Phantom Buster, il va prendre cette information, il va aller sur LinkedIn, il va faire une recherche LinkedIn, il va extraire tous les gens qui correspondent à ces critères, ils vont extraire toute l'information sur chacune de ces personnes, il va extraire toutes les entreprises de tous ces gens et toutes les infos sur chacune de ces entreprises, ce qui fait déjà un certain nombre d'informations. Il va ensuite demander à un service qui s'appelle Drop Contact l'adresse mail de ces gens. Donc Drop Contact, okay. C'est un service ultra utile, ultra stylé, qui te permet de transformer un nom, prénom, entreprise en une adresse email professionnelle.
Donc un peu comme le Hunter.io.
Exactement.
C'est un truc qui est plugué directement dans Phantom Buster.
Exactement. Toutes ces informations sont transmises par Phantom Buster à Lemlist. Et Lemlist va s'occuper de faire une séquence mailing récupérant les informations de Phantom Buster, intégrant éventuellement les images comme Lemlist le fait si bien de customiser un mail et ouais. Même les images à l'intérieur avec les images que Phantom Buster aura chopées, type la photo de profil, le logo de l'entreprise, etc.
Ok. Alors, il y a un autre outil qui, en associant à Phantom Buster, peut faire des merveilles, c'est Zapier.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous parler de Zapier d'abord et puis nous donner un exemple d'association fructueuse entre Zapier et Phantom Buster?
Carrément. Eh ben, Zapier, en fait, c'est un peu le yin, le côté blanc de l'automatisation et Phantom Buster, le côté noir. De ce que je veux dire par là, c'est que Zapier utilise uniquement des API officielles que les applications et réseaux sociaux proposent. Phantom Buster a dit, ah ouais, il n'y a pas d'API pour faire de l'envoi de messages. Eh ben, nous, on va en créer une. Et donc, Phantom Buster et Zapier se complètent parfaitement dans le sens où quand tu veux faire des actions que tu pourrais faire mais que les sites ne permettent pas de faire, tu es Phantom Buster comme recours dans ton processus d'automatisation. Un exemple, tu fais un type form sur Internet,
disant « je vais ouvrir mon service, il est trop bien, répondez à ce questionnaire ». Et dedans, tu récupères nom, prénom et entreprise de la personne. Ce que tu peux faire, c'est dire à Zapier, « Ok, à chaque fois que quelqu'un remplit ce type form, tu prends les informations nom, prénom, entreprise et tu les donnes à Phantom Buster. » Et Phantom Buster, toi, tu t'occupes d'aller sur LinkedIn, de retrouver cette personne et de te connecter à elle sur LinkedIn, l'ajouter comme une connexion. Ça, c'est un exemple de workflow qu'on peut mettre en place avec Zapier et Phantom Buster.
Et alors, ces workflows, ils se font dans l'interface Phantom Buster ou dans l'interface Zapier ?
Tout se fait dans l'interface Zapier.
Juste, j'avais une question rapide sur Zapier. Il y a quelques temps, j'utilisais beaucoup IFTTT.
Oui.
Que j'utilise plus vraiment au profit de Zapier. Et est-ce que vous avez des clients qui utilisent encore IFTTT et est-ce que ça se plug avec Phantom Buster ?
Je trouve que IFTTT, je ne suis pas sûr d'avoir compris trop comment ils marchent parce qu'ils ont un design déjà magnifique, mais je pense qu'ils se dirigent plus vers une cible B2C de gens qui veulent faire du Zapier, mais à l'intérieur de leur maison.
La productivité ?
Je pense que c'est plus personnel.
Parce qu'il fut un temps où tu pouvais faire à peu près les mêmes choses et ça a un peu décliné.
Non, IFTTT, j'ai jamais vu personne ne serait-ce que demander s'il pouvait intégrer IFTTT à Phantom Buster.
D'accord.
Par contre, il y a beaucoup de gens qui nous demandent d'intégrer Integromat, qui fait pour le coup exactement les mêmes choses que Zapier, mais voilà, c'est un service concurrent.
Ok. Voilà. Il y a un truc qui était hyper bien dans IFTTT, rapidement, et qui n'existe plus. Je crois que c'est Twitter qui a refusé ça. C'était l'ajout de gens dans des listes. Mm-hmm. C'est des trucs qu'on peut faire avec Phantom Buster. Enfin, ajouter des gens dans des listes.
Je crois qu'on a déjà parlé de ce fantôme. Je ne sais pas si on l'a en ce moment. Mais écoute, je vais noter ta demande. Je vais la.
En B2C, c'était magique. Moi, j'avais un truc, c'était B2C.
Ouais.
C'était des gens qui parlaient de déménagement.
Ouais.
Et dès que quelqu'un parlait de déménagement, il était ajouté dans une liste « besoin d'aide pour déménager ». Et les gens, ils ne comprenaient pas le concept de la liste, ils ne comprenaient pas que je fais des listes si je veux en fait, et que je mets qui je veux dedans. Et ils disaient « enlève-moi de ta liste ». C'était assez efficace, à part les gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient que je les enlève de la liste, chose que je ne faisais pas parce que fais ce que je veux, je fais des listes. Et bien, le nombre de gens qui ont découvert le profil et qui après allaient voir le site via cette astuce-là était folle. Bon, enfin bref, c'est plus possible. En légal, avec l'API légale. Par contre, en fantôme, je vais envoyer un petit mail de requête.
Si c'est faisable à la main, Phantom Buster peut le faire. Donc,
très bien, parfait.
Tu me dis.
Je vais envoyer ma requête. Donc Phantom Buster va donc aider la génération de leads, ce qui peut être très utile donc, pour un SaaS, mais comme on l'a vu, pour un freelance aussi, qui a envie de prospecter un
Absolument.
Type de client.
Oui.
En ce qui concerne l'inbound marketing, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'utilisation de Phantom Buster en stratégie inbound, c'est-à-dire ne pas aller prospecter directement, à appeler, envoyer un email, mais plus faire venir les gens à soi.
Alors un exemple dont j'avais été la cible à un moment, c'était la marque de doudoune Pyrenex, marque de doudoune française. Je ne pense pas qu'ils utilisaient Phantom Buster pour faire ça, mais et en gros, j'ai pris une photo que j'ai mis sur Instagram en mettant le hashtag Pyrénées dedans. Et dans les minutes qui ont suivi, Pyrenex a liké ma photo. Mmh. Et c'est marrant parce que je me souviens d'eux. Maintenant, à chaque fois que je croise la marque Pyrenex ou que je vois une doudoune Pyrenex et tout, j'ai un petit côté affectueux envers la marque. Parce qu'ils ont liké une de mes photos. Ça semble débile, mais le fait est que c'est comme ça. Et donc, avec Phantom Buster, ce que tu peux faire, c'est par exemple surveiller le réseau social de ton choix, disons Instagram, pour ce hashtag que tu cibles, et mettre une action du type auto-like dessus. Tu fais ça sur 100 personnes par jour, et tu as le programmé une seule fois, le truc tourne dans le background et tu n'as plus à y penser. Et tu as un paquet de gens au final qui vont venir sur ton profil Insta, puis voilà, sur ton site.
Si tu l'as bien fait ton profil, c'est une vitrine pour ton business.
Exactement, tu as tout à fait raison. L'automatisation qui mène vers une page Instagram toute nulle ne sert à rien. Il faut aussi faire le travail quand même derrière d'avoir un profil d'équerre et qui correspond à la marque.
Ok. Donc, en ce qui concerne les réseaux sociaux, à part ces pratiques d'auto-like, d'auto-follow, y a-t-il des utilisations moins courantes mais efficaces que tu voudrais nous partager ?
Y a plein d'automatisations que tu peux mettre en place de manière à générer des audiences. Un exemple auquel je pense, c'est la génération d'audience custom sur Twitter. Ouais. Pour te donner un exemple, quand tu veux faire un lancement sur Product Hunt, il y a des chances pour qu'il y ait des produits similaires aux tiens qui aient été lancés par le passé. Ce que tu peux faire, c'est récupérer sur Product Hunt la liste de tous les produits déjà qui ressemblent aux tiens,
ouais.
Puis d'extraire tous les gens qui ont upvoté ces produits. Puis tu pourrais aller visiter les profils de ces gens. Et en fait, sur Product Hunt, il y a très souvent le compte Twitter qui est affiché. Donc en fait, tu pourrais extraire une liste de milliers de comptes Twitter de gens qui sont intéressés par des produits super similaires aux tiens. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux ensuite créer une audience custom avec Twitter et le jour de ton lancement, targeter à fond ces gens pour leur dire « Hey, on existe, hey, au fait, on fait un Product Hunt aujourd'hui. » C'est une audience hyper, hyper bien targetée que tu peux activer grâce à l'automatisation.
Ok, et sur Facebook, est-ce que vous avez des...
Non, Facebook, il permettait une époque de faire des audiences basées sur les ID des utilisateurs.
Ouais, je me rappelle.
La belle époque. Ça fait partie des gros sacs qui sont morts, en fait, parce qu'on on ne peut plus faire ça. Facebook ne prend comme input de custom audience que les adresses email avec lesquelles les gens ont sign up à Facebook. Donc, non, pas sur Facebook.
D'accord. Aucune autre app, groupe Facebook ou truc comme ça?
Tu peux extraire les gens de Facebook, mais la question qui revient beaucoup aujourd'hui, maintenant qu'on peut ni faire des custom audiences, ni faire des auto-ci ou auto-ça, c'est en fait, qu'est-ce que tu fais de ces listes de gens que tu as extraits de Facebook?
Bah après, est-ce que vous pouvez plugger dans Phantom Buster un outil à la drop contact, mais qui ferait des trucs genre prénom.nom@gmail.com qui teste et qui voit si c'est bon ou pas?
Il y a des gens qui font ça, qui vont prendre un nom-prénom et générer 50 emails différentes, faire un giga fichier avec tous ces emails et les soumettre à une audience custom Facebook. Et Facebook ne va garder que les emails. J'ai entendu parler de gens qui font ça, qui faisaient ça et qui le disaient que ça marchait plutôt surprenamment bien. C'est un peu contre-intuitif parce que tu te dis que tu vas trouver que des mails d'homonymes ou de gens qui n'ont rien à voir. Perso, j'ai pas testé, je sais pas.
Ok. En ce qui concerne la deuxième étape du framework, alors l'activation.
Oui.
Alors moi, ce que j'aimerais parler dans cette partie-là, c'est du business Phantom Buster en lui-même, donc un business SaaS. Vous proposez plusieurs pricing, dont le classique free plan, ce qui permet à un visiteur de commencer à utiliser un produit gratuitement. Et après, il ne reste plus qu'à l'activer pour l'accrocher.
Oui.
Alors, est-ce que tu as identifié le aha moment, la métrique d'activation de tes utilisateurs?
Oui, chez nous, le aha moment, c'est quand un utilisateur voit les données qu'il a scrappées.
Okay.
Quand il a transformé une liste d'une page web en un fichier Excel hyper tangible, qui est téléchargé sur son ordinateur en plus, là il y a un moment, là il y a un truc qui se déclenche. Et donc notre objectif en 2020, franchement, avec Phantom Buster, c'est de tout faire pour que les gens le plus vite possible aient ce fichier.
Accélérer l'onboarding, donc du coup, ouais. Pour que les gens arrivent rapidement à l'état d'activer.
Exactement.
In-app ou par email, comment vous comptez faire pour accélérer ce process?
On veut le faire le plus tôt possible. On a réfléchi à des manières de le faire même avant même le sign-up, où une personne donnerait juste son nom ou son mail et on irait exécuter une action avec un fantôme. Par exemple, tu dis « Voilà, je m'appelle Marie-Jeannot. » Dans les 5 minutes, il y a le compte Phantom Buster qui est « Follow ton compte sur LinkedIn » ou qui souhaitait connecté sur LinkedIn. On se dit « Waouh, là, il y a un truc, les gens s'aperçoivent que c'est pour de vrai. »
Ok, donc ils éviteraient... En fait, vous gagneriez au niveau friction. Il n'y aurait pas la friction du sign-up.
Exactement.
Et ils pourraient rapidement arriver à l'état d'activer.
Exactement, mais il y a des contraintes techniques qui font qu'on n'a ni validé ni invalidé, mais que ce n'est pas une priorité de faire ça. Et puis le fait qu'on ne demande pas la carte de crédit au moment du sign-up fait que cette friction n'est pas si énorme non plus. Il y a clairement une friction de sign-up, mais ce n'est pas non plus la mort. Ce n'est pas là que le bas blesse. Ce qu'on veut, c'est que juste après le sign-up, la personne ait le fantôme qui l'intéresse sur son compte et qu'il y ait le max d'infos préenregistrées pour qu'elle ait plus qu'à cliquer sur lancer et obtenir ses résultats le plus vite possible.
D'accord, donc c'est une piste d'amélioration potentielle. Oui. Pas de séquence d'email pour...
On veut aussi mettre une séquence, des séquences d'email.
D'accord, donc dans la partie où oui. Il y aura le sign-up, il y aura, vous allez mettre en place des séquences d'email pour accélérer cet onboarding.
Je pense
quelqu'un qui aurait abandonné l'action, par exemple.
Bah, ce qu'on veut faire, c'est exactement ça. C'est en fonction de est-ce que la personne, où est la personne dans le funnel. Est-ce qu'elle est pré-sign-up? Est-ce qu'elle a lancé un fantôme, mais qui, le truc est resté en échec? Ou est-ce qu'elle a obtenu ses données, mais qu'elle n'est jamais revenue dans les 10 jours qui suivent? En fonction, dans chacun de ces cas, on veut lancer une séquence d'emailing qui parle à la personne avec les bons arguments.
Ouais.
Pour ça.
J'ai discuté avec le CEO de Aptweak, qui est un outil SaaS de ASO.
Okay.
Ils étaient partis d'abord dans l'optique de réduire les frictions au max. Et donc, ils avaient fait tout un truc où les gens pouvaient utiliser le service sans forcément mettre leur carte et tout ça. Et en fait, ils en étaient revenus parce que ça leur créait plus de problèmes. Ils avaient plus de gens qui leur faisaient des requêtes, des trucs, et c'était des gens qui n'étaient pas finalement des gens qui allaient payer à la fin, en fait. C'est que ça attirait, ça aspirait plein de gens qui n'étaient pas dans leur audience, en fait, et qu'à la finale, ils ont préféré mettre une grosse barrière à l'entrée, avec une grosse friction, pour avoir que des gens hyper intéressés qui passent le truc. Enfin, je suppose, de toute façon, c'est différent selon tous les business, hein, mais voilà, c'était intéressant de discuter de ça.
Je pense que c'est le principe un peu d'une boîte de nuit, où tu mets deux videurs à l'entrée et tu dis... Ce soir, personne ne rentre.
Ça donne envie d'y aller.
Ah, voilà.
Non, mais c'est un arbitrage entre les deux. Tu vois.
Voilà. Et la VIP zone, personne ne pourra jamais payer cette bouteille à 500. Et ouais, tu mets, voilà, au moins, tu es sûr que les gens qui se présentent devant les vigiles ou qui se présentent au bar sont intéressés pour aller à l'étape d'après.
Et c'est vraiment un arbitrage parce que ça dépend de la culture de la boîte. Surtout les devs. En fait, les devs, ils vont voir le funnel, ils vont voir les personnes qu'ils ont perdues entre le point A et le point B. Mmh. Ils vont prendre localement, bon, comment on fait pour régler ce problème-là? Et il faut qu'on trouve un moyen d'augmenter ce taux de conversion entre ces deux étapes, tu vois. Alors que d'autres, avec d'autres cultures, ils vont dire, mais non, justement, il faut que ce soit ça, comme ça, les gens, ils ont envie de rentrer, et finalement, à la fin, il y a plus de gens qui rentrent. Donc, c'est vraiment un arbitrage un peu compliqué, quoi. Et apparemment, c'est toi le garant de cet arbitrage, du coup.
Lourde tâche.
Alors, j'arrête de t'embêter là-dessus. Troisième étape du framework AR, la rétention. La rétention donc, sera toujours meilleure si on maintient une relation avec ses clients, bien sûr. Et une solution pour maintenir une relation, c'est de multiplier les points de contact. As-tu des idées à nous proposer qui permettraient de multiplier les points de contact sur les différents canaux de communication ou réseaux sociaux?
Carrément. Un truc qui est magique avec l'étape rétention, c'est que on a déjà des informations sur la personne. On sait déjà son nom, son prénom, son email. Et ça, c'est du pain béni pour retrouver qui sont ces gens et éventuellement entrer en contact avec eux. Tu peux dire à chaque fois que quelqu'un... Je connaissais une app qui avait fait ça. À chaque fois que quelqu'un sign up à leur application, ils récupèrent le nom, le prénom et l'email. Ils essayent de retrouver le compte LinkedIn de cette personne et ils vont avoir leur compte perso s'auto-connecter avec la personne qui vient de sign up à leur tool. Et ça, c'est faisable tant que ton application, elle fait moins d'une centaine de sign up par jour. Et elle te permet de montrer aux gens à quel point tu en as quelque chose à faire d'eux et à quel point tu as envie de parler avec eux et à quel point le fait qu'ils viennent sur ton outil et qu'ils résolvent le problème pour lequel ils sont venus, ça, c'est important pour toi. Et donc créer de la rétention.
Ok, donc du coup, à partir de mes informations, tu me retrouves sur LinkedIn, donc tu crées un contact LinkedIn. Est-ce que tu peux me retrouver sur d'autres plateformes?
Alors oui, quand tu fais une recherche sur Google, site 2. Instagram.com, tu vas avoir que les résultats qui sont sur Instagram. Et donc si tu fais cette recherche site 2. Et que tu mets le nom, prénom de la personne derrière, s'il y a un compte Instagram avec ton nom dedans, alors il va ressortir.
D'accord, donc ça va être valable pour les B2B, souvent. Les gens qui mettent... Enfin, par contre, en B2C, les particuliers qui mettent des noms d'utilisateurs un peu loufoques...
Bah, clairement, tu retrouveras jamais 100% des gens. mais tu retrouveras, même si tu as 20% des gens et que ces 20%, tu décides d'agir sur leur poste, si tu vends des chaussures, qu'au moment où ils sortent un poste avec marqué hashtag chaussures, qui sont sign up chez toi et que toi, tu likes leur poste, c'est hyper puissant. Les gens se souviennent de ce genre d'action. Donc, c'est pas la peine de vouloir viser absolument tout le monde. Comme on disait avec le funnel, quoi. Tu veux pas 100% des gens, tu veux mettre des actions automatiques qui sont faites pendant que toi, tu fais autre chose et qui vont marquer les gens.
Ok, très bien. Enfin, l'étape referral. Est-ce que vous faites du referral à Phantom Buster?
Alors, chez Phantom Buster, il y a deux choses. Référence dans le sens bouche à oreille.
Là, je parlais plus programme.
On fait de l'affiliation. Ça compte?
C'est une sorte de referral. Donc, vous avez un programme d'affiliation, genre une page avec un programme d'affiliation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites
Oui, on a un système d'affiliation. On donne des URL d'affiliés aux gens qui nous les demandent. Après, on n'a pas industrialisé ça dans le sens inscrit 3 potes à Phantom Buster et tu auras tant de discount. C'est clairement l'une des pistes de réflexion, des actions qu'on pourrait mettre en place plus tard. C'est une hyper bonne idée.
Et c'est qui ces gens qui vous demandent des liens d'affiliation?
Les gens qui me demandent des liens d'affiliation, c'est principalement des influenceurs, des gens qui ont déjà une certaine
aura. Qui sont déjà clients de Phantom Buster?
On a même des gens qui ont découvert Phantom Buster, qui se sont dit « je vais plus l'utiliser si j'ai un lien d'affilié ». Donc ça nous arrive qu'il y a des gens qui ne nous utilisent pas et qui nous utiliseraient s'ils avaient le lien.
Ah ouais?
Ouais.
D'accord.
Ou des écoles, en fait, des gens qui vont créer un organisme de formation, quatre coins du monde d'ailleurs, où ils se disent on va faire un cours sur Phantom Buster, Phantom Buster sera dedans, ça serait cool si vous faisiez un lien d'affiliation, nous on fait écoutez, cool, c'est parti.
Ok, d'accord, donc c'est venu à vous et vous avez fait les liens d'affiliation pour la suite. Ok, ça marche. Alors du coup, tu as commencé à me parler de bouche à oreille.
Oui, et la deuxième action qu'on...
Parce que moi, c'est comme ça que j'ai découvert Phantom Buster. C'était le bouche à oreille. Et donc, je suppose que c'est en grande partie comme ça que les gens sont arrivés sur Phantom Buster. Alors, est-ce que vous avez prévu des moyens d'amplifier ce bouche à oreille?
Une chose qu'on fait, mais cette fois qu'on n'automatise pas, c'est le fait de, à chaque fois que quelqu'un... déjà, d'ouvrir les portes de la discussion, donc c'est-à-dire être présent sur les Slack de gross hacking, avoir un intercom ou un drift pour chatter avec les utilisateurs. On parle beaucoup avec les gens et dès qu'il y a une demande, par exemple, j'aimerais bien avoir un fantôme qui fait ci, qui fait ça, si on peut le faire tout de suite. Et si on ne peut pas noter l'idée, noter le nom de la personne et le jour où on a finalement pu faire la demande, aller contacter l'utilisateur.
Et ça, c'est super puissant.
Carrément.
Parce que du coup, c'est un petit wow effect gratuit, quoi.
C'est hyper puissant, c'est hyper mémorable. Ça fait chaud au cœur pour la personne. C'est important, quoi.
Oui, mais c'est-à-dire une technique que je recommande à tous ceux qui peuvent le faire. Si vous avez des requêtes, du coup, des gens qui vous demandent des choses, faut le noter dans un spreadsheet avec le contact. Et le jour où vous allez le faire, même si ce n'était pas pour eux, revenir vers eux et leur dire voilà, ça y est, le truc que tu m'as demandé il y a 2 ans, ça y est, c'est disponible. C'est un truc wow effect. Effectivement, pour pousser le bouche à oreille, ça n'a pas de prix, quoi.
Clairement, ça coûte rien et c'est puissant.
Et puis, ça se prête vachement bien à vous parce que vous avez du coup un catalogue d'apps qui peuvent être un peu modifiés selon les requêtes pour plus ou moins de ressources. Donc, ok, je vois.
La next step, ce serait à chaque fois qu'on fait quelque chose, que instantanément il y ait la liste de tous les gens qu'on a mis dans cette base de données qui reçoivent un message par le canal par lequel ils nous ont contactés, donc Slack, si c'était Slack, mail, il y a même des gens qui nous contactent par Twitter ou Facebook.
Avec un truc pour partager, en plus. C'est encore mieux. Alors, la question qu'on se pose tous, moi et les auditeurs de ce podcast, c'est... Est-ce que Phantom Buster utilise Phantom Buster pour son propre marketing?
Aïe, 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 aïe. Oui, absolument. On s'en sert pour analyser beaucoup qui sont les gens qui viennent. Maintenant, moins les gens qui sign up, mais plus les gens qui payent. En fait, on essaye de comprendre qui est le profil qui paye sur Phantom Buster. Et donc, on va beaucoup... en plus, comme je disais tout à l'heure, on a le mail, on a le nom-prénom. On va aller revoir les infos de ces gens sur LinkedIn, extraire les infos de eux, de leur boîte. Non pas dans le but de les espionner eux, mais de comprendre dans quelle industrie ils sont.
Comment vous faites pour traiter ces données-là?
Excel à l'ancienne, à la main.
Donc d'abord, vous faites l'extraction.
Ouais.
Et après, vous arrivez à la main pour vraiment les classer par catégorie.
Donc on fait ponctuellement ce genre d'opération. En fait, pour prendre des décisions, on va s'aider de ce genre
votre clientèle, quoi. Ouais. D'accord. Ok. C'est des trucs que vous faites par défaut. Et quand vous avez besoin d'aller dans la data, vous le faites, quoi.
Oui. Après, on est une petite entreprise, donc on n'a pas encore des process extrêmement rigides. Excel, c'est quand même un logiciel relativement hallucinant.
Et puis, les tableaux croisés dynamiques.
C'est quand même puissant.
ok, très bien. Donc, vous faites que ça, l'enrichissement de données.
Non, un exemple. Là, je te donne des actions ponctuelles qu'on fait. Un autre exemple, c'est quand on fait un lancement.
Quoi comme type de lancement?
Un lancement sur Product Hunt, par exemple.
Donc, une nouvelle feature?
Ou une nouvelle feature.
Ok.
Le jour où on veut faire ce lancement, il y a un certain nombre d'actions qu'on veut faire. On veut contacter des gens, par exemple sur Slack, et leur dire « Hey, on est sur Product Hunt » ou « Hey, cette feature, elle est finalement dispo ». Au lieu d'aller contacter ces 200-300 personnes à la main, on va avoir préparé la liste de ces personnes sur un spreadsheet et on va utiliser l'un des fantômes de Phantom Buster pour envoyer à notre place le jour J les 200-300 messages.
Ok, donc des lancements, l'enrichissement d'informations sur votre clientèle,
ouais.
Mais pas d'acquisition, pas de scrapping et de lemlist et d'autopilote.
Non, c'est pas parce qu'on veut pas et c'est pas parce qu'on n'utilise pas nos outils ou quoi. C'est parce qu'on est dans une phase un peu adolescente. Phantom Buster en ce moment où on a fait un premier pivot il y a un an et demi pour transformer un outil qui était pour les développeurs en outil pour les gros hackers. Et on veut permettre encore plus d'amener cette boîte à outils avec les outils et le savoir-faire au plus grand nombre, à savoir les marketeurs et les sales. Et donc on est en train de préparer toute une nouvelle interface, on est en train de préparer un nombre de features, de fonctionnalités dingues qui vont sortir là dans les prochaines semaines. Et donc, on ne voulait pas trop aller dans la prospection tant que le produit n'est pas...
D'accord. Vous n'avez pas un besoin énorme de faire de l'acquisition parce que vous travaillez sur le produit, en fait.
On est une start-up, on a une quantité de ressources limitée et aujourd'hui, on a estimé que le meilleur endroit où les positionner, c'était faire le meilleur produit. Quand on sera dans une phase de prospection pure, de croissance
pure...
Quand
il y aura besoin de faire monter des chiffres pour éventuellement une levée de fonds ou un truc, là, vous serez sur... C'est des leviers que vous maintenez, en fait, sous le coude.
Ouais, clairement, quand on avait fait notre lancement en production, c'est ça, je me souviens, on avait un certain nombre d'actions ponctuelles, type ce que j'ai dit là, le déclencher les messages... Product Hunt, on aime bien avoir des espèces de gros boutons rouges où tu appuies dessus et d'un coup il y a un truc de dingue qui se passe. Donc voilà, c'est pas dans la prospection, c'est pour dans quelques mois.
Ok, alors comment tu fais pour continuer à te former au jour le jour sur la growth?
Très personnellement, vu que je fais du gros hacking, tu vois, je ferais du gros hacking dans une entreprise de pneus chez Michelin. Je devrais m'y connaître en pneus et donc travailler sur ce sujet 50% du temps. Et
te former
et me former au gros hacking le reste du temps. Là, j'ai la chance et la position qui d'ailleurs est la mienne et qui ne va pas forcément parler à ton audience, je m'en excuse, mais qui est je baigne dans le gros hacking parce qu'on fait un outil de gros hacking, on fait un SaaS de gros hacking pour les gros hackers, principalement de SaaS, tu vois. Donc il y a une espèce de métaposition inception de ouf qui fait que je baigne là-dedans et que... Tous nos feeds, tous nos sujets de discussion, les articles qu'on se partage et tout, c'est du gros hacking.
Juste à regarder les clients, ce qu'ils font,
exactement.
Ce qu'ils te demandent.
En plus, les cas d'utilisation qu'on reçoit tous les jours, les idées, les « est-ce que vous faites ci ?» Enfin,
d'accord.
On reçoit plein de choses. Après, pour les gens qui veulent se former au gros hacking, outre les formations qui existent, où en une semaine, on te des grosses accélérations, où en une semaine, tu apprends les bases du gros hacking. Je pense que lire les forums de gros hacking, Gros Hacking France et tout, c'est participer, même poser des questions, même si elles sont bêtes et tout. Je trouve que c'est une super bienveillance sur les événements de gros hacking à Paris, en France. Et qu'il faut y aller, il faut participer et on apprend des tonnes de choses.
Ok. C'est quoi la suite pour toi avec Phantom Buster? Il va y avoir une team growth
Alors, il y a une team growth qui est en train d'être mise en place par Naïlé Tita, qui était chez Google, expert Google, et qui est en train de mettre ça en place chez Phantom Buster. Moi, je vais rester plus sur l'aspect marketing.
J'ai vu que tu avais commencé à faire de l'inbound en content. C'est-à-dire que tu crées des guides sur le blog, ouais. Sur comment faire ci, comment faire ça. Donc, ça va être une piste d'amélioration, je suppose.
Absolument. Notre mission, c'est de mettre non seulement les outils, mais aussi le savoir pour générer de la croissance entre les mains des gens. Et là, on t'a filé une perceuse, on t'a filé un tournevis cruciforme et on t'a pas filé encore trop le manuel de comment tu les utilises. Ça fait complètement partie de notre mission et ça va devenir mon sujet à plein temps, en fait.
Stratégie inbound. Ouais.
Stratégie inbound et surtout, oui, partager du contenu, comprendre les gens ce qu'ils veulent faire. Leur montrer comment le faire.
Ok, parfait.
À travers l'inbound, mais aussi à travers le produit, quoi, qui devrait être plus adapté à ses besoins. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu, que ce soit blog, podcast, vidéo, que tu suis particulièrement ?
Le podcast que je suis le plus, c'est le podcast de Tim Ferriss, où il interviewe des gens passionnants à chaque fois pour décortiquer leur vie. Et c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui, d'habitude, que je ne connais pas forcément de plus en plus, il va trouver des experts dans plein de domaines. Et il va creuser, grâce au format du podcast qui est génial, sous le discours qu'ils ont habituellement en 5-10 minutes et aller dans une discussion de 3 heures à leur enfance, les problèmes qu'ils ont rencontrés, les solutions qu'ils ont trouvées. Il y a un côté, ça humanise beaucoup ces gens, ça te fait te rendre compte que ce n'est pas des superman et qu'ils ont rencontré plein de problèmes, ça te donne des idées de solutions que toi tu peux appliquer. Bref, c'est un podcast. Ouais,
Donc tu priorises depuis la semaine de 4 heures?
Ouais, j'avoue, il y a un petit côté fanboy, même si faut apprendre avec des pincettes. Hein. C'est le format de son podcast et les invités que je trouve passionnants. Enfin, le gars est très bon aussi, quoi.
Ok. Et en dehors de voilà, on va dire d'influenceurs, de créateurs de contenu, est-ce que tu as des inspirations autres? Ça peut être un film, un personnage, n'importe quoi, qui t'ont donné des idées pour faire du marketing?
Bah écoute, le meilleur marketeur que j'ai rencontré récemment, c'est mon coiffeur. Parce que, je vais te raconter, j'étais dans un bar à Paris, j'ai bois une bière, je monte au premier étage en cherchant la toilette et j'ouvre il y a une porte qui était semi-ouverte avec de la lumière derrière et je croyais que c'était là, je rentre et je vois que c'est un coiffeur. Un miroir, un siège et un gars qui coupe les cheveux de quelqu'un. Il fait ok, je demande, attends, il y a un coiffeur ici, j'avais besoin d'aller chez le coiffeur, je peux me faire couper les cheveux. J'étais prêt à me faire couper les cheveux à 22h, il me fait non, aujourd'hui, non, c'est plein. Oui, parce qu'en plus, j'ai pas dit, mais c'était ouvert, ça ouvre le soir, quoi, ça ouvre sur les horaires du bar.
Ah ouais. Bah oui.
Et donc il me fait, ah non, vas-y, prends rendez-vous. Donc je fais ok, trop marrant, je prends rendez-vous, je me pointe 2-3 jours plus tard, et alors que je monte dans le bar, et que je rentre chez le coiffeur, il sort son téléphone et il commence à m'enregistrer en mode story Instagram. Et je fais, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Un peu bizarre, un peu intrusif, mais bon, soit. Je m'assois et là, il me dit la question classique du coiffeur.
Qu'est-ce qu'on fait?
Lui, non, il ne te demande pas ça, il te demande qu'est-ce que tu bois. Donc tu fais, écoute Jordan, une petite bière, ça serait magnifique. Il fait ok, il n'y a pas de souci, il va te chercher une bière. Et après, sans même te poser la question qu'est-ce qu'on fait, il commence à te couper les cheveux. Donc il faut être prêt, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas prêts à se...
Donc expérience extrêmement différenciante. Donc.
Expérience unique, expérience mémorable déjà. Le gars trop sympa, la demi-heure se passe super. Et à la fin de la demi-heure, il va te faire une story avec la nouvelle coupe de cheveux. Il va te demander ton compte Insta et il va te taguer dedans. Il va se taguer dedans. Il va publier ça.
Le référol.
Le référol de ouf. Lui.
Que toi, tu vas repartager en story.
Exactement.
D'accord. Alors attends, du coup, acquisition, si je récapitule. Hein. Tu crois que c'est les toilettes. Tu y vas parce que tout le monde y va finalement une fois dans la soirée. Mm-hmm. Donc, activation, c'est la première expérience. Tu as ton petit wow effect. Donc, il a pensé à peu près à tout pour le moment. Rétention, qu'est-ce qu'il fait pour la rétention? Parce que le referral, on l'a, il fait une story, donc il demande de repartager la story.
Il fait une story, et puis en plus, je viens au referral parce qu'il fait je viens à la rétention parce qu'il fait quelque chose pour la rétention, mais en fait, il te permet de
te montrer, oui, c'est
de
ça que
te montrer sur Instagram, là où on sait tous que c'est pour la... pour l'image et tout, mais là il y a pas, c'est pas moi je me prends en photo avec une belle coupe de cheveux, c'est en mode oh on m'a pris, oh je le savais pas, je le voulais pas, mais je vais quand même le repartager parce que c'est cool. D'ailleurs les gens adorent, enfin les gens ont envoyé plein de DM suite à ce genre de story, ça marche hyper bien. Et attends, pour la rétention, ils proposent un abonnement à son salon de coiffure où pour 30€ par mois, tu peux avoir coupe de cheveux à volonté. Et donc, moi qui ai un budget coiffeur jusque-là de peut-être une fois tous les 3 mois, donc disons 10€ par mois, il m'a fait tripler mon budget coiffeur.
Alors que tu y vas qu'une seule fois par
mois. Alors que j'y vais qu'une fois tous les trimestres. Et maintenant, j'y vais une à deux fois par mois. Et en fait, au lieu que la coupe dure...
Donc, il fait exploser la lifetime value de ses clients.
Non, mais c'est un ouf. C'est un ouf. Au lieu que la coupe dure 30-45 minutes, ça dure que 10 minutes. Parce qu'il y a juste deux, trois petits coups de ciseaux à mettre. Donc moi, je suis bien en permanence. Lui, il a gagné 3 fois ce qui se ferait normalement sur presque moins de temps. Le calcul à faire, mais je te jure que c'est une bonne affaire pour lui.
T'es un génie.
C'est un génie du marketing. C'est un génie du marketing.
Ok, bah super anecdote. Franchement, très intéressant. Bah, franchement, le nombre de gens qui me disent qu'ils ont appris des trucs en discutant avec leur coiffeur, mais alors lui, ouais, j'avoue qu'il dépasse tout. Bon, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir offert une bouteille d'eau.
Merci à toi.
Et de m'avoir bien accueilli à Station F, malgré notre problème d'enregistrement, qu'on a dû refaire une partie.
C'est arrivé même au plus grand prix Pulitzer. Donc,
ouais. Donc merci beaucoup, Jules, et puis à très bientôt.
Salut, Yann. Ciao.
Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service, ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. À bientôt, ciao.